On va prier, OK? Allons en prière devant la parole de Dieu qui est devant nous et qu'on va lire. Seigneur, on commence cette nouvelle année et je sais qu'on l'a commencé depuis déjà plusieurs jours, mais c'est pour moi la première fois de revenir à l'Église avec l'Assemblée, d'être ici pour apporter ta parole. Et Seigneur, je te prie de bénir cette Assemblée, de bénir ton Église à Trois-Rivières, pas juste cette Assemblée locale, mais aussi toutes nos Églises locales dans la région avec lesquelles on fraternise, avec lesquelles on a à cœur, Seigneur, la mission de l'Évangile dans cette ville, qu'on a à cœur la mission de l'Évangile dans cette région que tu nous confies. Et que tu nous demandes, Seigneur, avec ton aide, avec ta force, avec ta puissance, de briller pour toi. Seulement, Seigneur, toi, tu peux nous faire briller. Naturellement, on ne brille pas. Mais toi, en nous, Seigneur, il est possible de briller. Et c'est ce qu'on te demande, que tu nous accordes l'occasion de briller de la façon que tu voudras, Seigneur, dans la ville, dans ce lieu que tu nous confies, de partager ta parole, de rayonner pour toi. Bénis ce matin notre temps alors qu'on ouvre les Saintes Écritures et qu'on a besoin de t'entendre, Seigneur, nous parler, de nous instruire. Comme Église, où tu veux nous amener? Comment est-ce qu'on doit, en Église, en famille de croyants, prendre soin les uns des autres? Comment on doit gérer, Seigneur, nos assemblées? Ta parole va nous éclairer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On te prie de nous parler, de nous conduire à travers ce livre de Timothée, qu'on puisse apprendre ensemble. Comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit pour parler avec justesse de ta parole et conduis, Seigneur, nos cœurs à être sensibles à toi ce matin. Parle-nous de la façon que tu voudras. On compte sur toi, Seigneur, on a besoin de toi, une parole de toi. On a déjà reçu des paroles par ces chants, des Saintes Écritures qu'on a chantées, qui font du bien à notre âme de chanter ta parole. Et Seigneur, bénis maintenant la lecture de ta parole et ton instruction dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite dans 1 Timothée chapitre 1 et on va lire ce matin les 11 premiers versets et ce verset dans sa parole. Paul, apôtre de Christ Jésus, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. Peut-être vous trouvez ça particulier que je lis votre du Christ Jésus, mais c'est la manière dont c'est écrit en grec, et c'est comme ça que la version Tob le traduit. C'est l'ordre des choses, le Messie Jésus, littéralement. Hein? Alors, pour nous, ça fait comme bizarre. Des fois, on a l'impression que Christ, c'est son nom de famille à Jésus. Mais c'est pas son nom de famille. C'est plutôt son identité. Jésus, le Messie. Et donc, les Grecs, les Hébreux vont dire le Messie Jésus, tout simplement. C'est ce que veut dire le Christ. Et la lettre ici est adressée à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Et qu'est-ce qu'il lui souhaite? Il dit, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ Jésus, notre Seigneur. Selon ce que j'ai recommandé à mon départ, et le mot recommandé ici est fort, là, c'est un terme militaire, c'est un ordre, ce que j'ai ordonné. Alors, il reçoit un ordre clair qui lui rappelle, à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine ou un autre enseignement et de ne pas s'attacher à des légendes ou des mythes, des fables et des généalogies sans fin, comme le font bien souvent les Juifs à cette époque-là. Cela favorise les discussions plutôt que le dessein de Dieu, qui se réalise par la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et aussi d'une foi sincère. Pour s'être écarté de cette ligne, certains se sont égarés en un bavardage creux. Ils prétendent être docteurs de la loi, alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment fortement. La loi, nous le savons en effet, est bonne, dans la mesure où on le prend comme la loi. En effet, comprenons bien ceci, la loi n'est pas là pour le juste, mais pour les gens insoumis et rebelles, impies et pécheurs, sacrilèges, profanateurs et rebelles, impies, pécheurs, sacrilèges, profanateurs, parricides, matricides, meurtriers, alors meurtriers de père, meurtriers de mère, meurtriers en général, débauchés, pédéraste, peut-être vous avez dans votre traduction pédéraste, en réalité, on peut traduire tout simplement homosexuel, c'est la même chose ici. Marchand d'esclaves, menteur, parjure, et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Voilà ce qui est conforme à l'évangile de gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Quelques mots avant de commencer cette nouvelle série. Vous avez le titre juste ici. Comment se comporter dans la maison de Dieu? Et c'est pas moi qui ai inventé ce titre. Il vient des paroles de Paul qui dit dans le chapitre 3, les versets 14 et 15, il stipule son intention très claire à Timothée. Je t'écris pour qu'en attendant que je vienne, tu saches comment on se comporte dans la maison de Dieu. Et quand il parlait de la maison de Dieu, il est pas en train de parler du bâtiment. Ce lieu ici où on se réunit n'est pas la maison de Dieu. Mais en parlant de la maison de Dieu, il parle des croyants dans lesquels Dieu vit. Et quand les croyants sont ensemble, et qui se réunissent, peu importe le lieu, dans une maison, dans une villa, dans un bâtiment d'église qui a été construit pour réunir le corps de Christ, c'est la maison de Dieu qui est là. Et qu'on sache, quand on se réunit ensemble, comme corps de Christ, comment est-ce qu'on se comporte? Comment qu'on gère les différentes possibilités de problèmes qui existent quand le peuple de Dieu se réunit? Qui fait quoi? Comment? Qui a quelle responsabilité? Tel problème, comment qu'on le gère? Et Paul a laissé ce jeune pasteur qui est avec lui depuis 10-12 ans, ce Timothée, qui est dans son deuxième voyage, alors que Timothée a peut-être 20 à 25 ans, s'est démontré fidèle, il est jeune, il devient un assistant dans la mission de Paul, et Paul va l'amener avec lui pendant 10-12 ans de temps, et avant de lui confier cette charge de Éphèse, et il avait la confiance de Paul, et c'était pas sa première mission. Il avait déjà, à d'autres occasions, envoyé à d'autres églises pour porter des messages, porter des lettres, apporter des correctifs. On le lit dans certaines épîtres. Des beaux mots qui élogent, évidemment, la fidélité, l'amour que Timothée avait pour l'église, comment son dévouement était là. Il va même se ramasser plus tard, emprisonné, même, on lit dans le livre aux Hébreux. Et il va avoir beaucoup de soucis. On parle de ses modestement. Est-ce que c'était tout le stress de la responsabilité qu'il avait, son amour pour le corps de Christ et les anxiétés que pouvait lui créer? Tout cela, je ne sais pas, mais il avait des maux de ventre, entre autres, il mentionne dans cette épître. Et il était dévoué, il aimait le corps de Christ. Et Paul lui confie à cet homme qui est probablement à la mi-trentaine, approximativement, encore appelé comme étant jeune face à tous les gens de l'Église qui étaient là, des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes âgés dans l'Église. Et c'était un des défis. Il était vu comme étant très jeune avec la tâche qui lui était confiée par Paul. Et Paul prend le temps ici, au tout début de son épître, de se présenter. Je suis apôtre, puis Timothée, je lui ai écrit cette lettre devant vous tous, moi qui est apôtre, qui lui confie une autorité que je lui ai ordonnée avec un terme militaire. C'est une sorte d'autorité déléguée, c'est un mandat qui lui est confié par le roi des rois à travers moi de prendre soin de l'Église, ici, d'amener des correctifs. Alors, ce Timothée a besoin d'encouragement face à ces défis qu'il a à relever. Il a besoin de consignes précises. Et il a besoin aussi d'être réaffirmé dans son autorité devant les membres de l'Église. Certains qui se prennent ce jeune-là, puis là, tu sais, il reçoit, là, il est ancien, là, puis là, il nous dit quoi faire, puis là, il parle de la part de Paul. On sait pas, c'est vraiment tout ce que Paul a dit qu'il fait, là, tu sais, puis il y a peut-être des enfants qui sont à sa tête, là, puis il manque d'expérience, puis il y a même pas d'enfants. Ah, il est-tu marié? Il est peut-être même pas marié, il comprend pas ce qu'on vit. Vous pouvez imaginer les critiques qu'il pouvait y avoir envers ce jeune missionnaire à qui Paul confiait un mandat, à une église aussi assez bien établie. C'était pas une église facile, Éphèse. On le voit par plusieurs lettres. Et Paul était, si vous vous rappelez, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, Paul, à la fin de son deuxième voyage, va arrêter par là. Il va faire un long discours qui nous est enregistré dans la deuxième moitié du chapitre 20. C'est là qu'il va parler de l'église de Dieu, du Dieu vivant, qui est mort pour elle. Puis il va y avoir des loups qui vont venir, faites attention. C'est à l'église d'Éphèse, puis les anciens d'Éphèse à qui il donne ce message-là. Il arrête en passant, puis il leur parle des problèmes qui s'en viennent. Puis effectivement, c'est ce qu'on est en train de constater quand on lit cette épître, qu'il y a plusieurs problèmes qui doivent être corrigés, qui sont pas très, très faciles à gérer. Et Paul donne un coup de main à Timothée, à qui il donne cette lettre qui va être lue devant tout le monde et qui va l'aider à accomplir son mandat avec l'autorité de Paul et les précisions qu'il va donner ici. Donc, Voilà les grandes lignes, et je les résume évidemment pour pas trop m'étirer sur cette introduction, sur le ministère qu'il a, ce Timothée, qui a besoin d'encouragement. Et une des choses que je veux que vous remarquiez en partant sur ce qu'on vient de lire, alors donc, comment se comporter dans la maison de Dieu? C'est le nom de notre série, on va faire environ une douzaine, 12 à 14 messages ici l'été sur le livre de Timothée. Et ce matin, ce qu'on regarde, c'est ce que tu crois a un impact sur ton comportement. Ce que tu crois a un impact direct sur ta manière de vivre, sur ton éthique, sa manière de traiter les autres. Nos croyances ont une incidence et personne ne peut nier ça. Que tu aies une foi religieuse, une foi dans l'évolution, une foi dans l'homme, une foi dans tes capacités, tu as une foi en quelque chose, tu crois en quelque chose. Il n'y a personne de complètement athée qui n'a aucune foi en rien, qui croit en rien. On croit tout en quelque chose. Et ça affecte notre comportement. Et c'est une des premières choses qu'il va dire dans ses premiers versets. Il y a des gens qui enseignent des choses, puis ça affecte le comportement dans l'Église. Et là, il faut revoir d'où viennent ces enseignements-là. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et la première chose qu'on apprend, c'est que il faut premièrement enseigner la bonne doctrine qui conduit à la foi véritable. Et ça, c'était l'ancestrage, on va dire, de Timothée. Les deux premiers versets nous dit que ce Timothée était un enfant légitime dans la foi de Paul. C'est-à-dire que on apprend dans Actes 16 que Timothée avait grandi dans un foyer où c'était un foyer mixte. Le père était grec, la mère était une juive et il semble qu'il y avait la grand-mère qui était là, la maternelle. Et il a été instruit par sa mère, sa grand-mère, dans les voies de Dieu selon l'Ancien Testament. Et Paul est arrivé dans cette ville, à Lystre, où il vivait, et a amené l'Évangile. Et finalement, ils ont cru dans le Christ, cette famille-là. Et lui s'est démarqué du moment où il a connu l'Évangile et du moment que Paul va repasser. Il se démarquait dans son son amour, sa compréhension, son dévouement pour Dieu. Et l'Église a chaudement recommandé, justement, que ce Timothée, qu'il connaissait, qui avait conduit au Seigneur Paul, il le connaissait, il a dit, ah, écoute, depuis que t'es parti, il va tellement bien, il aime l'Église, écoute, c'est un modèle, ce petit gars-là, prends-le avec toi, on te le recommande, il va t'assister, tu vas pouvoir compter sur lui, c'est sûr. Et Paul va l'amener avec lui. Mais c'était son fils dans la foi. Il avait conduit avec l'Évangile à connaître Jésus-Christ personnellement. C'est mon véritable fils dans la foi. Il est possible pour nous d'avoir des enfants, biologiques ou par adoption, peu importe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être nos enfants dans la foi automatiquement. C'est un choix que chacun a à faire. Et pour Paul, qui n'avait aucun enfant, sa fierté, évidemment, c'était quoi? C'était ceux qui avaient pu conduire au Seigneur. Quelle joie paternelle pour lui. Quelle joie des gens que tu as conduits à la foi. Et là, en plus, non seulement de les avoir amenés à croire en Jésus, à leur parler de Jésus, puis qu'ils découvrent Jésus, qu'ils deviennent émerveillés de Jésus, puis qu'ils décident de lui donner sa vie, mais en plus, les voir grandir, les voir se développer, les voir faire des pas de foi, les voir conduire quelqu'un d'autre au Seigneur. Quelle joie, quelle fierté. Et Paul était fier. Parce que Timothée avait cru dans l'Évangile, et il était fier de le voir grandir, et il le répète régulièrement dans ses épîtres, « Mon fils, mon véritable fils dans la foi. Je suis son père spirituel. Ah, c'est pas moi qui a fait l'Évangile, mais c'est moi qui ai apporté l'Évangile, puis je suis tellement content de le voir aller. Je suis fier de lui. » C'est ce qu'il est en train de dire ici, par sa paternité. Et que le véritable Évangile, ça amène du fruit dans la vie d'une personne comme Timothée. Parce qu'il avait connu le véritable Évangile. Que Jésus-Christ seul, qui est le Messie de l'Ancien Testament qu'on attendait, qui peut sauver et accomplir tout l'Ancien Testament, c'est ce que le véritable Évangile dit. On est perdu sans lui et Jésus vient faire ce pont entre ciel et terre que seulement Dieu pouvait construire par son fils Jésus. Et Timothée était un de ses enfants. Quelle joie, quelle fierté pour Paul de le réitérer dans cette lettre de ce père très fier. Et j'ai mentionné ici la question de croyance. Et vous savez, une des choses qui est très populaire comme pensée aujourd'hui, c'est écoute, c'est bien que tu aies des croyances. On a chacun des croyances, puis si tu as des croyances, puis tu es sincère, là, c'est beau que tu aies des croyances. Puis quand les gens expriment une croyance, que ça amène des prises de conscience, des choses dans leur vie, souvent les gens vont dire comment c'est beau, c'est admirable, dans la mesure que tu me juges pas, que tu me déranges pas. Jusque-là, c'est cute. On se comprend? Et souvent, on va dire ça parce qu'on se dit, à la mesure où ça ne me dérange pas, c'est correct, puis que ça n'a pas trop d'impact. Vous savez, ce que je crois amène quelque chose dans ma vie. Je vous donne un exemple. Monsieur Poutine a des croyances. Le président de la Russie. Et ses croyances sont pas autant orthodoxes que versées dans le communisme et l'évolutionnisme dans lequel il a grandi sous le système soviétique. Et ce culte à la victoire de la patrie est très fort chez lui. On le voit par toute l'emphase qu'il met dans la nation pour célébrer ses moments de victoire, même s'ils ont 80 ans, qui étaient avant de sa naissance. Il en fait un culte pour la nation. Il n'a pas un grand respect pour le voisin comme étant un égo. Et ses croyances ont directement une incidence sur ses prises de position politique, ses prises de position vis-à-vis le voisin ou les voisins autour. Ça affecte sa perception du monde et sa manière de gouverner un pays. Et nous, on peut regarder, ben voyons donc, oui, mais il y a un système de croyances qui l'amène à faire ça. Tout comme Netanyahou, qui est dirigeant pour Israël, qui a lui aussi ses croyances au niveau du judaïsme, au niveau de la fierté juive, au niveau de protéger son peuple. Il y a son contexte, il y a ses croyances à lui qui l'amène à avoir une prise de position qui, pour le monde, dit, ben voyons donc, comment tu t'acharnes sur les Palestiniens, qu'on soit d'accord ou pas ici, c'est pas la question. Je pense pas que personne n'est d'accord de toute façon à ce qui se passe là, c'est difficile à voir, à soutenir, mais c'est complexe. Mais c'est lié à des croyances. Vous savez, l'ennemi aime que les croyants acceptent la Bible comme la parole de Dieu, mais aime semer des doutes que face à ce qu'on entend aujourd'hui comme étant des pensées populaires, qu'il y a un doute qui rentre dans notre esprit, que oui, la Bible est inspirée, il y a quelques trous ici et là qui sont un peu comme démodés, qui sont plus des opinions de Paul, on va dire. Et qui sont plus moins contemporains, c'est plus lié au contexte, puis ça, on n'a pas besoin de le pratiquer, parce que c'est dérangeant. Et là, si on croit qu'il y a quelques trous dans la parole de Dieu, qui ne sont pas inspirés de Dieu, ça amène dans ma foi aussi une sélection des doctrines que je prends ou que je ne prends pas. Des éthiques bibliques que je prends ou que je ne prends pas. Des valeurs de Dieu que je prends ou que je ne prends pas. Et que j'ai des manières de systématiquement expliquer ça pour m'en passer à côté. Vous me suivez? Si j'ai un doute que ce n'est pas toutes les Écritures qui sont inspirées de Dieu, ce petit trou-là va amener des changements dans ma croyance. Ce que l'on croit a un impact dans la manière dont je parle aux autres, dans mes choix, dans ce que j'écoute, avec qui je me tiens, comment je me comporte envers le monde autour de moi. Ça n'a pas le choix. J'ai un fils qui a grandi en Haïti et il a grandi avec des histoires de peur. C'est très fort, très populaire. Et il a entendu des histoires de loups-garous, beaucoup. Toutes sortes d'histoires comme ça. Et donc, pour Christopher, quand il se couche le soir, naturellement, il a beaucoup de stress face au noir. Alors, il faut une lumière. Pourquoi? On lui a tellement répété d'histoires de peur qu'il y croit. Et c'est plus fort que lui, c'est viscéral. Donc, aller accompagner le chien dehors après la brunante, il faut une flashlight. C'est d'un stress incroyable. Il faut qu'il y ait toujours une lumière le soir. Parce que on lui a fait croire à toutes sortes de choses dans le noir. D'esprit et d'histoire de peur, que c'est viscéral, c'est ancré en lui, cette croyance qu'il y a là. Et ça va prendre des années de briser ces liens, ces fausses croyances qu'on lui a inculquées pour le garder dans la peur. Et c'est malsain, évidemment, pour lui. Ça amène des comportements où ce que c'est plus fort que lui, dans certaines occasions, il peut pas obéir parce que là, il a peur de quelque chose dans le noir. Vous me suivez? Nos croyances ont des impacts sur toute notre vie. De l'intime et du privé dans ma pensée jusqu'à mes relations avec n'importe qui au travail, dans l'église, dans la famille. Ça affecte ma gestion financière. Ça affecte ma perception du monde. Ça affecte tout. Et dans les épîtres pastorales, il y a un accent très fort sur il faut que tu enseignes l'évangile, pas autre chose. Enseigne pas un autre évangile. Enseigne pas d'autres enseignements. Et quand vous allez voir le mot « doctrine », enseigne la saine doctrine. Ah, c'est quoi la doctrine au juste? C'est le mot enseignement. Enseigne le bon enseignement. Une doctrine, c'est un enseignement. Quand on parle d'une doctrine de Jésus, c'est un enseignement de Jésus. Et Jésus était le maître enseignant. Quand on dit maître, c'est le didascalos, c'est-à-dire l'enseignant. Et c'est un grand enseignant. Et donc, on retrouve ce mot-là, enseigner, qui, lorsqu'il est juste un nom, peut être traduit comme une doctrine, un enseignement, c'est tout. Donc, une doctrine, c'est un enseignement sur un tel ou tel sujet. Et ça se retrouve dans toutes les épîtres pastorales, qu'on appelle 1, 2, Timothée et Tite, où ce qu'il a, c'est deux hommes à qui il a confié des congrégations qui ont besoin des enseignements, puis il dit, vous devez vous attacher à une bonne doctrine et vous assurer de la protéger dans l'Église, que ce soit les bonnes personnes qui enseignent ça, parce que ça affecte la manière dont l'Église se comporte. Entre elles et avec l'extérieur, nos croyances sont très importantes. Et qu'elles soient fondées à la bonne endroit. Et de distinguer entre une croyance essentielle, non négociable, et une croyance secondaire. Une opinion qu'on peut avoir sur quelque chose qui est moins clair, qui est moins important, et sur lequel on ne devrait pas se diviser. Et dans ce premier chapitre, c'est justement une des emphases principales qui est là dans ce qu'on lit. Deuxième chose, enseigner la bonne doctrine conduit dans les plans de Dieu. Si on regarde les versets, regardez avec moi le verset 3, il donne un ordre qui n'est pas un autre évangile, qui n'est pas un autre, mais un autre doctrine ou un autre enseignement qui soit donné. Et de ne pas s'attarder dans des fables, des mythes, des choses qui sont secondaires, des histoires qui ne sont pas fondées, des opinions, des généalogies sans fin, parce que pour beaucoup de Juifs, c'était de se battre qui était descendant de qui, puis ça avait une valeur, ça avait une notoriété, de quelle tribu, de quelle famille tu descendais, etc. Et donc, il pouvait y avoir vraiment un éternissement là, fou sur les généalogies et bien d'autres spéculations. Et on peut les équivaloir aujourd'hui à bien des spéculations qui ne sont pas nécessaires. Si on veut parler de spéculation, de généalogie sans fin et ces opinions-là, on peut rentrer là-dedans, par exemple, les dates. Est-ce que Jésus est vraiment, vraiment né le 25 décembre? Je vous annonce officiellement, c'est peu probable que Jésus soit né le 25 décembre. Ok? Je sais que vous êtes beaucoup d'entre vous qui sont déçus de savoir ça, mais on célèbre pas le 25 décembre parce que c'est le jour de sa fête reconnue. Hein? Il y a une influence du passé, du solstice d'hiver, même des fêtes païennes. Il y avait une fête à ce moment-là, puis là, il y a des gens qui se questionnent, est-ce qu'on devrait célébrer cela? L'Église chrétienne, il y a bien des siècles, a décidé de célébrer à ce moment-là de l'année, plutôt que d'avoir cette fête-là, le remplacer par une fête qui honorait le Seigneur, sa naissance, etc. Est-ce qu'on devrait la pratiquer? Et là, dans l'Église, il y a des gens qui croient que oui, d'autres qui croient que non. Puis c'est pas important la date. On peut célébrer Jésus, sa fête toute l'année. Amen? Ben oui, c'est sa fête toute l'année. On lui appartient tous, puis on dépend de lui pour le salut. Mais là, il peut y avoir des discussions sans fin sur ce genre de sujet-là. Est-ce que c'est sur ça qu'on veut vraiment s'ostiner? Alors, on choisit comme Église, écoutez, on ne célèbre pas à cause de la date. Il est là traditionnellement. L'important, est-ce que moi, je suis reconnaissant de la naissance de Jésus? Puis est-ce que à ce moment-là, je souligne vraiment le centre qui est Jésus, ou est-ce que je suis dans les cadeaux, je suis dans la société, je suis dans ce qui se passe en vogue, puis finalement, c'est une fête païenne comme n'importe quelle autre fête. C'est dans le cœur que ça se passe, n'est-ce pas? C'est pas dans la date. C'est pas dans la justesse de la date. Mais j'ai vu des chrétiens partir de l'Église à cause de ça, à travers les années. Oui, plus qu'une fois. Sur l'opinion là-dessus. Tellement que c'est important d'être prêt à briser ma communion, puis dire, cette Église-là n'a pas une bonne doctrine, parce que dans le fond, on peut être d'accord de ne pas être d'accord là-dessus. Hein? Soyons d'accord de ne pas être d'accord sur certaines affaires secondaires qui ne sont pas des essentiels de notre foi, sur des dates, sur des détails sur lesquels on ne veut pas se battre. Ce qu'on ne veut pas avoir de compromis dessus, c'est sur Jésus, seul sauveur, fils de Dieu, venu sur terre, Dieu incarné. Ça, on ne veut pas. La bonne nouvelle de l'Évangile que les gens ont besoin d'entendre parce qu'on est perdu et pécheur. Ça, c'est des vérités non négociables. Mais bien d'autres choses. On n'a pas besoin de chicaner là-dessus, puis de se diviser, puis là, de se compartimenter ceux qui sont comme ça, ceux qui sont comme ça. Attention. Et Paul avertit, il y a des gens comme ça qui, et entre autres, on dit au verset 5, que c'est lié à leur perception de la loi. Il y en a qui se pensent enseignants de la loi. En fait, c'est un peu plus loin, au verset 7. Et qui se pensent enseignants de la loi, mais ils ne s'y connaissent pas dans ce qu'ils parlent. Mais ils le font avec une grande affirmation, sont convaincus, sont convaincants, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Puis, on dit que leurs intentions ne sont pas bonnes, au verset 4. Et que tout ça, ça distrait d'accomplir les plans ou le dessein de Dieu. Remarquez ça au verset 4. Cette mauvaise doctrine, il dit qu'il ne faut pas s'enfarger dedans. Ce que ça fait, ça nous écarte du plan de Dieu. Là, c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire par le destin et le plan de Dieu? Et le mot qui est là, c'est gestion de maison. Ça fait drôle pour nous autres, hein? Gestion. C'est l'idée d'être intendant, d'être gestionnaire de maison. Et ça nous empêche de bien gérer ce que Dieu nous a confié dans le royaume de Dieu. Que ce soit nos dons, l'Église, le fait qu'on soit croyant, Dieu nous donne de gérer des choses dans son royaume. Et ça nous distrait d'accomplir l'intendance du royaume de Dieu, l'intendance de ce que Dieu nous a confié. Puis c'est vrai, hein, quand vous y pensez. Combien, par des chicanes secondaires, ont perdu des relations? Dans l'Église même. Combien, parce qu'il y a eu des chicanes d'Église, ont changé d'Église? S'étant sentis, puis ils voulaient pas embarquer là-dedans, mais ils sont sentis rejetés, tassés, déçus par le comportement de certains. Est-ce que ça nous amène dans les desseins de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la bonne intendance? Non, ça éloigne, ça n'édifie pas. Ça met les gens dans des coins. Et là, c'est les opinions qui parlent le mieux, avec le plus de conviction, sur quelque chose qui est secondaire, qui n'est pas essentiel à la foi. Et là, ça divise le corps de Christ. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène justement à ne pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Le contraire. Ça nous éloigne de Dieu. Ça nous rend déçus des chrétiens. Et combien de gens dans la région de Trois-Rivières sont dans leur maison déçus de l'Église et veulent plus se réunir en Église, déçus des relations, déçus du comportement qu'ils ont vu dans le leadership de l'Église, parmi les membres, les rivalités et les chicanes sur des niaiseries qu'ils ont menées. C'est ça l'Église? Ben oui. Ça arrive que c'est ça l'Église. Voyons donc, Joël. Oui, un paquet de pécheurs sauvés par Jésus, graciés de mériter le jugement éternel, à qui Dieu offre le pardon, mais qui continuent à marcher sur terre avec des luttes avec leur chair. Et qu'est-ce qui arrive? On arrive dans l'Église avec plein de bonne volonté, avec des hautes attentes, puis finalement, il y a encore de l'humain avec lequel il faut combattre chaque jour, avec lequel je dois moi-même, comme premier ennemi, me coller à Dieu pour pas me verser dans ce qui est enclin naturellement dans mon corps. Et plutôt dépendre de l'Esprit-Saint pour me conduire. Puis est-ce qu'on est toujours conduit par l'Esprit-Saint? Tristement, je dois répondre non. Je ne suis pas toujours conduit par l'Esprit-Saint. Et là, tout à coup, j'ai une réaction, une réponse, une attitude, une parole qui déçoit un autre. Là, on n'en parle pas, on ne le règle pas. Là, ça arrive encore un mois plus tard. Puis là, un moment donné, je suis dans le ministère, puis là, la même personne fait encore. Et là, je suis déçu, je débarque de ce ministère-là. Parce que des raisons pour débarquer d'un ministère, déçu par des gens, je peux vous donner une longue liste, là. Je suis pasteur à l'Église. Un des pasteurs. Je peux vous faire la longue liste, là. Je le vois, je suis aux premières loges avec bien des gens, de le voir, là. Et j'en fais partie de ces déceptions-là. Parce qu'on est en train de se côtoyer entre humains, en train de cheminer dans notre vie chrétienne, et on n'est pas toujours sa coche. Forcé de le dire. Et donc, qu'est-ce qu'on compte dessus? L'aide de Dieu pour demander pardon. L'aide de Dieu pour régler nos conflits et vivre ce que Jésus nous dit, pardonnez-vous les uns les autres, parce que je vous ai pardonné. Ça fait partie de la famille. Et vous savez, des fois, ce qui arrive dans le corps de Christ, c'est que la tolérance qu'on a dans le corps de Christ n'est pas aussi élevée que dans la famille. Oh, il y en a qui c'est la même chose dans leur famille, mais pour la majorité, si on a des conflits dans la famille, de sang, on va travailler à les régler généralement. Hein? Parce qu'on va se voir, on est famille. Parce qu'on porte le même nom de famille. On va avoir des rencontres de famille, il va y avoir des choses qui vont arriver. Fait que donc, on se bat pour garder le lien familial. Vous savez, on a tous des noms de famille différents, mais on fait partie du corps de Christ. Et là, on a un nom en commun. Jésus-Christ, dans lequel on croit, qui fait de nous des frères et des sœurs en Christ, des héritiers du royaume, héritiers du Dieu Tout-Puissant. Et donc, si on ne s'entend pas ici-bas sur terre en passant, c'est juste une pratique parce qu'on va vivre pour l'éternité ensemble. Oui, mais Joël, ça va être beaucoup plus facile. Au ciel, on va être parfait. Amen, c'est vrai. C'est vrai, ça aide beaucoup à vivre ensemble si on est parfait. Mais la Bible me dit que c'est vrai que ce qu'on a chanté tantôt, le Dieu de victoire habite en moi. Il est possible pour moi d'être victorieux dans ce combat avec ma chair, dans ce combat de garder les relations, c'est possible pour moi d'être victorieux. J'ai des récidives. Oui, ça arrive à tout le monde, des récidives. Est-ce que j'arrive à le reconnaître puis demander pardon? C'est quand la dernière fois qu'avec un chrétien dans l'église, vous avez expérimenté le besoin de demander pardon? Si vous n'en avez pas souvenir, ce n'est pas normal. C'est sûr que vous avez fait un péché, là, contre quelqu'un. C'est sûr. On est tous dans le même bateau, là. Parce qu'on a parlé dans le dos de quelqu'un à un moment donné. Parce qu'on a méprisé telle personne. On sait bien elle, on sait bien lui. Ou ce que maintenant on a parlé une parole dure à quelqu'un dans un ministère. Ou ce que quelqu'un comptait sur nous, on ne s'est pas présenté, on a trouvé des excuses. Toutes sortes de choses qu'on était décevants les uns pour les autres. Ça fait partie de la vie de famille. Dieu veut qu'on vive ça et qu'on dépende de lui parce que c'est pas facile la vie de famille. Et ça me demande de dépendre de l'Esprit Saint, de Dieu pour pardonner sincèrement et qu'il m'aide à pardonner en voyant comment j'étais un grand pécheur et que lui me pardonnait. Seigneur, aide-moi à le faire avec les autres parce que tu l'as fait avec moi. C'est ça la vie d'église. C'est comme ça qu'on grandit. Vous voyez le mot-là, il est pas juste beau, sa bannière, là. C'est ce que Dieu veut qu'on vive, la croissance. Et la croissance se fait en vivant en communauté, en se frottant les coudes, en étant décevant et déçu, et qu'on se pardonne les uns les autres, et qu'on leur regarde à Jésus, c'est lui qu'on suit, c'est pas les gens dans la salle qu'on suit, c'est Jésus qu'on suit. Et donc, là, on va grandir en Jésus parce qu'on regarde à lui, puis on passe par-dessus ça, puis on avance. En réglant les choses, pas en se mettant la tête dans le sable, puis là, on accumule contre quelqu'un, puis là, maintenant, on explose, là. Mais en réglant nos choses en famille, en se parlant respectueusement, honnêtement, en passant par certaines affaires qui sont secondaires, en disant, regarde, j'ai eu l'impression que c'était ça, mais je veux pas y prêter des intentions. Seigneur, aide-moi à pas prêter des intentions lorsque j'ai pas de preuves. Puis là, j'en voudrais parce que je pense que j'ai senti que, j'ai vu que, j'ai eu l'impression que... Qu'est-ce qui est factuel? Qu'est-ce qui est mon impression? C'est dur. On est tous pognés avec des blessures qui nous amènent à lutter avec ça. C'est ça la vie de famille. Et il se passe toutes sortes de choses qui nous amènent à devoir dépendre de Dieu. Et Dieu le sait que c'est bon pour nous. Et donc, enseigner la bonne doctrine, j'arrive pas à le voir sur mon écran parce que finalement le blanc là, je m'éblouis. Fait que doctrine qui conduit dans les plans de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'une bonne doctrine, d'un bon enseignement qui reflète ce que Paul a donné à Timothée, ce que Paul a reçu lui-même des apôtres, qu'il a reçu surtout lui-même de Jésus. Et là, à ce moment-ci, Paul a à peu près 30 ans depuis sa conversion, approximativement. C'est un homme qui est à quelque part, si sa conversion est à 20 ou 25 ans, il se situe autour de 55, 5, plus ou moins, grosso modo. Il a un bagage d'expérience et que Dieu lui a donné à côtoyer beaucoup de gens à travers les années et à dépendre de lui, et il a beaucoup à donner. Contrairement à ceux qui, eux autres, avaient pas la même intention, et dont on dit au verset 5, regardez bien, ben le but de cette injonction que moi je te donne, la raison pourquoi je te donne cet ordre-là, là, je vais te dire mes motifs profonds, c'est ceci mes motifs profonds, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et deuxièmement, d'une foi qui est sincère, qui est entière, qui est vraie. C'est ça qui le motive. Ce que les faux docteurs n'avaient pas comme motif. C'était de l'orgueil, de la prétention de connaître quelque chose, on nous dit dans les versets 6 et 7, qu'ils connaissent pas. La prétention, puis ils passaient par-dessus cette prétention-là, était tellement déclaratif, tellement autoritaire, qu'ils se donnaient l'impression que c'était intimidant. C'est ce qu'on nous dit dans les versets 6 et 7. Ils se pensent des docteurs de la loi, mais ils sont pas, puis ils comprennent pas la loi, puis ils comprennent pas le but de la loi, que c'est pas pour contrôler les chrétiens, c'est pour déclarer le pécheur coupable, pour qu'il se tourne à Jésus. Et donc, ils doivent remettre des pendules à l'heure, parce que beaucoup de fausses doctrines, vous savez, viennent de cette fausse compréhension. Donc, dans ces versets qu'on vient de voir, on vient de voir le problème, on voit le résultat qui amène les gens finalement à ne pas faire le plan de Dieu, Et troisièmement, finalement, on voit le motif de Paul qui est rempli d'amour sincère, une conscience qui est pure, qui n'est pas en train de faire ça pour qu'il y ait un gain, pour avoir un plus gros soutien missionnaire, pour avoir un plus gros orgueil. Il dit non, ça vient d'un cœur qui est sincère. Et pour Paul, c'est important. La conscience revient régulièrement. C'est ce qui, à l'intérieur de nous, nous juge nous-mêmes à savoir est-ce que mes motifs sont purs? Est-ce que vraiment ce que je fais, c'est détaché d'un gain personnel? Ou est-ce que c'est pour avoir plus d'influence, pour paraître bien, pour avoir plus de contrôle sur les gens? Puis il dit, moi, c'est pas ça qu'il y a un amour qui est sincère, qui vient de la foi, une conscience pure. Je veux le bien de l'Église. J'aime l'Église. Et c'était clair dans le cœur de Paul, et c'était clair dans le cœur aussi de Timothée. Et finalement, troisièmement, enseigner la mauvaise doctrine conduit finalement à des comportements destructeurs. Et c'est ce qu'on voit dans les derniers versets de cette section. Ces gens-là pensaient connaître la loi. Et vous savez, c'est un problème commun. Les gens se convertissaient, mais finalement, ils avaient le judaïsme dans leur rétroviseur, dans leur angle mort. Ils sortaient du judaïsme, mais le judaïsme n'était jamais bien loin derrière. Tout comme nous aussi au Québec. Hein. Souche catholique. Beaucoup sont sortis du catholicisme. Et qu'il y a des relents de catholicisme dans nos raisonnements. Il y a des relents religieux dans nos appréhensions, dans nos attentes, dans notre manière de voir les pasteurs. Des fois, on l'a changé d'un curé à un pasteur, tout simplement. C'est pas mieux, là. Des fois, on l'a changé des réunions du dimanche pour la messe du dimanche. Mais c'est juste ça. On n'a pas compris. Et dans nos attentes, on fait comme à l'Église catholique, on se faisait servir, on vient une fois par semaine, puis finalement on sert pas, on sert personne, on fait juste recevoir. On continue notre religion ailleurs, sous un autre nom. L'Évangile ne nous amène pas à vivre comme ça. Mais comme n'importe quel changement, souvent c'est facile dans notre humanité, on revient dans notre angle mort à notre ancienne religion. Les relents reviennent de cette ancienne religion. Et pour plusieurs convertis qui étaient des convertis juifs, bien souvent le judaïsme n'était jamais bien loin derrière. Et on le voit dans le titre, il y a bien d'autres occasions, comment Paul a eu de la misère avec les juifs, qui étaient frustrés, qui ne voulaient pas reconnaître le Christ. Mais ceux qui reconnaissaient le Christ, après ça venait le débat. Oui, mais quelle partie de l'Ancien Testament faut continuer à pratiquer pour honorer Dieu? Oh, je comprends que ça ne nous sauve pas, mais ce serait bon de garder les fêtes juives. Hein? Puis tu sais, quand même tel commandement, c'est important. Puis là, il y avait des débats sur lesquels qu'on garde pas. Et là, il y a ceux qui gardaient plus de commandements, d'autres qui gardent moins de commandements. Puis là, on chicanait là-dessus. J'ai un ami qui est à Jérusalem, pasteur à l'église d'Odessa, où ce que j'allais quand j'étais en Ukraine il y a plusieurs années, en 2014, et il a déménagé avec son épouse, qui a des origines juives, trois générations en arrière, en Israël. Et depuis 4 ans, il est là, il apprend l'hébreu, il patauge. Et là, il s'est joint à une église à Jérusalem, une synagogue messianique. Mais vous voyez, dans leur cas, ils ont décidé de faire l'Église une synagogue comme les Juifs qui vont dans des synagogues, mais qui croient au Messie. Ils pratiquent les fêtes juives, pas pour être sauvés, mais pour être le plus proche du peuple israélien qui sont en train de chercher leur Messie pour les aborder. Ils ont décidé de faire ça, pas par obligation, mais par souci de proximité. C'est pas la même chose, vous voyez? Il y a une intention missionnaire dans leur manière de faire ça à Jérusalem pour rejoindre les Juifs. Et donc, ils pratiquent les fêtes juives, mais eux autres comprennent le sens et ils expliquent le sens dans leur célébration que c'est maintenant Jésus qui accomplit tout ça, etc. Mais on va voir ici en Amérique du Nord du judaïsme. Vraiment, là, c'est une grosse mode. J'ai vu plusieurs personnes à travers les 24 dernières années quitter l'Église sous des modes de judaïsme. C'est-à-dire que, on devrait pratiquer le sabbat. Ah, fait que là, il y a des églises qui joignent ensemble, puis eux autres pratiquent le sabbat. D'autres, ils pratiquent les fêtes juives. Oui, mais t'es pas juif, puis t'es pas en train d'évangéliser des juifs. Pourquoi tu fais ça, là? Notre église fait pas ça, puis moi, je pense que c'est important, puis on respecte pas assez l'Ancien Testament, fait que là, je veux plus être membre, puis je m'en vais ailleurs, puis là, je commence un petit groupe maison, puis... Vous avez pas idée comment on a vu à travers les années faire des choix comme ça, puis des gens qui se réunissent dans leur maison, qui n'ont pas de pasteur reconnu, qui est capable d'enseigner, qui a un don reconnu par l'Église. On s'auto-proclame des prophétesses, des prophètes. Certains sont en discipline, ils font leur propre congrégation dans leur maison. Puis là, il y a ceux qui pratiquent ci, ceux qui pratiquent ça. Et Paul, il est en train de dire, « Hey, Je suis en train d'envoyer ça ici pour mettre du ménage ici, là. Il y a des gens qui comprennent pas la loi, mais qui se pensent enseignants. Puis, justement, c'est pour ça qu'au chapitre 2 et 3, il y a des gens qui peuvent enseigner, des gens qui peuvent pas enseigner, ceux qui peuvent enseigner. Mais voici leur qualité pour que vous sachiez qui peut enseigner ou pas, pour pas avoir du n'importe quoi comme enseignement. Parce que sinon, si vous avez un mauvais enseignement, il va y avoir aussi des mauvais comportements qui vont avec un mauvais enseignement. Un enseignement qui est sain apporte aussi un comportement sain. Un enseignement qui est autre apporte un comportement autre. C'est ce qu'il appelle autre doctrine, autre enseignement. Et Paul corrige ici, c'est pas pour les justes, mais c'est pour ceux qui ne sont pas justes, pour comprendre qu'ils sont en besoin de l'Évangile. Et là, il fait une longue liste de péchés qu'on retrouve, qui décrivent essentiellement, si vous regardez la liste, il y en a 14, si je ne me trompe pas, et vous avez essentiellement des péchés qui sont liés au 5e, 6e, 7e, 8e, 9e commandement. Des péchés sexuels, de non-respect envers les parents, de mensonges, de malhonnêteté, de mauvais témoignages, blasphémer, dire quelque chose puis finalement de pas tenir ma parole, etc. On a une liste ici de différents péchés, dont les péchés sexuels aussi, qui était un gros défi à Éphèse, parce qu'il y avait évidemment une déesse importante, puis c'était l'industrie du tourisme qui était autour de du temple de Diane. Et donc, plusieurs fois, dans les écrits qui sont liés à Éphèse, il y a des allusions à ces défis sexuels. Dans toutes les villes qui avaient des temples grecs, souvent, il y avait justement des prostituées de temples, des pratiques qui permettaient justement aux gens de se laisser aller finalement à leur chair et de pas être fidèles dans leur vie matrimoniale, dans leur sexualité devant Dieu et qui se salissaient. Et donc, c'est une réalité qui est là. Donc, on a deux péchés sexuels qui sont mentionnés là, etc. Et la loi condamne tout ça pour nous amener à... Mais pour le juste, il n'y a pas besoin de la loi comme telle, parce que ça ne le sauvera pas. Il y a besoin de Jésus. Et c'est ce qui l'amène à la toute fin de la section qu'on vient de lire. Regardez les derniers versets. Donc, les circonstances... Il y avait des circonstances de gens qui voulaient enseigner, mais qui n'étaient pas reconnus, qui n'avaient pas les qualifications, qui n'avaient pas le cœur à la bonne place. Il y avait des discours creux. C'est ça, les circonstances. Et il doit corriger ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de juste enseignement. C'est mentionné, en fait, 32 fois dans les trois épîtres pastorales, les petites épîtres, dont 15 fois juste ici. Deuxièmement, ben, le résultat, ben, c'est le péché, finalement, qui est là dans la loi, qui est pratiqué lorsqu'on n'a pas de la bonne doctrine et que, finalement, on adresse juste le péché, le péché, le péché. Mais on n'est pas en train de enseigner justement la solution au péché. Et là, il arrive, dans les derniers versets, à la solution. On va lire ensemble la fin du verset 10. Il dit, « Pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine, donc à la saine enseignement, voilà ce qui est conforme à l'Évangile de gloire. » Donc, la bonne nouvelle de la grandeur de Dieu, la bonne nouvelle de sa grande générosité, la bonne nouvelle de comment Dieu, il est saint, il est majestueux, il est incroyable et il a concocté un plan de sauvetage incroyable qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle, qui est conforme à l'Évangile de la gloire de Dieu, bienheureux. Donc, c'est comme une bénédiction de du bonheur de Dieu qui lui a amené l'Évangile, cette bonne nouvelle qui m'a été confié. La solution, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. Voilà la solution. Et c'est mentionné justement dans ce dernier verset. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par une saine enseignement? C'est quoi un enseignement qui est saint? D'un, la première chose qu'on sait, c'est que si c'est saint, c'est un adjectif, ça devrait produire quelque chose qui est saint dans notre vie. Sainteté, qui produit la santé spirituelle, qui fait du bien aux gens avec qui tu pratiques ce qui a été enseigné. Si ça fait pas du bien, ça édifie pas les gens. Si ça te fait pas grandir, ce n'est pas une doctrine qui est saine. Il va parler donc des saines paroles. Mais plus tard, au chapitre 6, verset 3, vous pouvez le regarder, on voit que Paul dit, c'est les saintes paroles et c'est la saine doctrine parce que ça vient de notre maître, du Seigneur Jésus. Cet enseignement est saint parce qu'elle vient de Jésus. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. C'est les paroles de Jésus qui sont enseignées et qui sont appliquées à l'Église de Christ. La bonne nouvelle de son salut. Et c'est ce qui apporte la sainteté dans la vie des gens. C'est pour ça que cette doctrine est considérée comme sainte. Elle vient de Jésus, le Messie, notre Sauveur. Et c'est pourquoi elle produit dans nos vies la sainteté. Sinon, elle ne produirait pas la sainteté. Elle produirait ce que la religion produit généralement, la charnalité, l'auto-glorification, me sentir bien, vouloir gagner le ciel, mais pas la sainteté. Un auteur que j'apprécie beaucoup a amené cette observation tellement juste, et j'ai décidé de le mettre dans le PowerPoint et je vous le lis. Donc, la solution, c'est l'Évangile. La loi et l'Évangile vont toujours ensemble. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Ils ont un rôle chacun important. Qu'est-ce qui arrive quand on manque d'équilibre et qu'on verse sur un ou sur l'autre de manière déséquilibrée, contrairement à ce que la parole de Dieu nous dit? Mais la loi sans l'Évangile est un diagnostic sans remède. Si tu as juste la loi, il n'y a pas l'Évangile, ben les lois te condamnent. Tu es juste pris à pas être capable de les obéir toutes, puis tu es pris avec le fait que je suis condamné, mais sans solution. De l'autre côté, si l'Évangile est sans la loi, est uniquement une bonne nouvelle du salut pour les gens qui pensent n'en avoir pas besoin parce qu'ils n'ont jamais écouté la mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Ouais, j'ai pas besoin de ta bonne nouvelle. J'ai pas de mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est la loi qui montre que je suis perdu, que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la loi pour connaître mon besoin de la bonne nouvelle. Mais si on parle juste de la bonne nouvelle, mais pourquoi j'ai besoin de la bonne nouvelle s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, s'il n'y a pas de besoin? Alors, les gens qui se sentent pas pécheurs, ou qui sentent qu'ils sont capables de gagner leur ciel eux-mêmes, qui sont capables de faire des choses qui plaisent à Dieu. J'ai pas besoin de Jésus, là. Je me débrouille très bien. On peut pas se séparer l'un de l'autre. La Bible nous enseigne ce besoin de connaître la loi et d'avoir son rôle et de comprendre qu'est-ce qu'elle exprime sur Dieu et sur nous. Et la solution, c'est l'Évangile. Les deux doivent être là. Et quand on doit les cohabiter ensemble, ben pour l'être humain, c'est difficile. On a besoin de l'Esprit Saint pour pas qu'un prenne la place de l'autre et qu'il y ait un déséquilibre. D'où le besoin d'un juste enseignement dans l'Église de Christ. Et donc, la loi n'est pas l'Évangile, mais l'Évangile n'est pas sans la loi. Et c'est ce que Paul va nous enseigner clairement dans l'Épître aux Romains. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, Joël? C'est bien beau, là, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces vérités sur l'importance de l'Évangile? J'aimerais juste vous lire ce petit paragraphe en guise de réflexion. C'est le glorieux Évangile... Non, excusez-moi, je l'ai déjà lu, c'est le mauvais paragraphe. Rappelle-toi que les paroles de Jésus qui nous ont été confiées nous parlent justement du message de l'Évangile et du bon enseignement à donner. J'aimerais juste vous lire ces paroles qui viennent de Matthieu, chapitre 28. Et voici comment c'est écrit, la grande mission. Vous la connaissez très bien, mais j'aimerais vous le relire d'une façon un peu différente qu'on le lit souvent. Il dit ceci, Jésus, « Allant, donc, faisant de toutes les nations des disciples. » Deuxièmement, les baptisant, ceux qui deviennent des disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Troisièmement, les enseignant à garder ou mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Jésus nous dit que dans la mission qu'il nous a envoyée pour annoncer l'Évangile, il y a des gens qui vont se convertir et ça va se faire pendant qu'on est en train d'aller faire ce qu'on fait au quotidien en allant. Et après, on les baptise, mais après, il faut les enseigner. C'est le même verbe qui est utilisé ici par Jésus qu'on retrouve chez Paul dans les épîtres pastorales. On a besoin des enseignants. On peut pas juste les laisser dans la nature. Jésus, parfois, a retardé d'aller à des endroits parce qu'il restait quelques jours pour les enseigner. Il prenait ses disciples, il allait dans la montagne pour prier, pour les enseigner. Il y avait des foules qui se réunissaient. Et qu'est-ce que Jésus? Jésus enseignait la vérité. Et certains étaient repoussés par la vérité, par l'Évangile, la nouvelle alliance qui s'emmenait par Jésus-Christ, et d'autres étaient attirés. Jésus est appelé le maître, l'enseignant. D'où le fait qu'il nous dit d'enseigner. Mais le disciple doit être enseigné. Ça fait partie de la mission de faire connaître l'Évangile, une fois qu'ils ont connu l'Évangile, de les baptiser, mais après ça, de pas juste les laisser. Et les meilleurs survivront. Non, ça, c'est l'évolution. Ça, c'est pas l'Église, c'est pas l'Évangile. Les meilleurs, ils vont continuer, eux autres. Ils vont se débrouiller. Ça, c'est Mowgli, dans la jungle. C'est un livre d'histoire. C'est pas le modèle, hein. Vous voyez, c'est l'exception. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. C'est ça, la mission. Alors, donc, nous, on doit grandir par des bons enseignements. On doit partager l'évangile aux gens. Ils acceptent l'évangile, on doit les servir, on sert le corps de Christ. Mais une des manières de servir, c'est quoi? C'est d'accompagner, d'enseigner à ce nouveau croyant l'évangile. De lui enseigner comment le mettre en pratique dans sa vie morale, dans sa relation au travail, etc. Et il va revenir là-dessus à travers l'épître actuelle. Mais peut-être ce matin, vous êtes découragé. Vous dites, ouais, mais j'y arrive pas, la grande commission, c'est trop gros, c'est trop dur, c'est exigeant, je me sens pas à la hauteur. J'aimerais vous dire deux choses vraiment importantes en terminant, pour vous encourager, ok? Jésus ne nous demande jamais quelque chose sans nous donner les outils pour le faire. Jamais Jésus ne fait ça. Jamais le Père Céleste nous a donné un commandement sans qu'il nous donne aussi les ressources pour accomplir. Amen. Ce n'est pas un père trop exigeant qui demande l'impossible à son enfant, à sa fille. Et quand il donne ce commandement, ce qui nous manque souvent, c'est de lire le verset avant et après qu'il nous donne les outils. Parce qu'au verset 18, il nous dit une vérité vraiment importante. Il dit tout quoi? Vous rappelez? Verset 18. Toute puissance. Toute puissance m'a été donnée. J'ai toute puissance. Fait que je vous envoie. Parce que j'ai toute puissance. Et il dit un autre tout. Au verset 20, à la toute fin, il dit quoi? Je serai avec vous quelques jours par année. Manquez pas quand je passe. Checkez vos courriels, Facebook, l'annonce de venir. Je suis là telle journée de la semaine. Si vous manquez la coche, ben je suis pas là. Non, qu'est-ce qu'il dit dans le verset? Tous les jours. Donc, la raison pourquoi il y a tout pouvoir, c'est parce qu'il est tous les jours avec nous autres. La raison pourquoi on a tout pouvoir accessible, c'est parce qu'il est toujours avec nous autres. Vous me suivez? Là, tout à coup, c'est possible d'amener l'Évangile à toutes les nations. N'est-ce pas? Il nous a donné avant et après les outils pour dire ce que je te demande. C'est vrai que c'est intimidant, mais c'est possible parce que j'ai toute puissance et que je suis toujours présent avec toi. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher, on va terminer en priant. Et je vous invite à un instant de silence, de se courber, de se présenter devant Dieu. Je ne sais pas comment le Seigneur veut vous parler ce matin. Peut-être que vous faites partie de ceux qui sont dans l'Église et vous avez peur d'être déçu parce que vous avez été déçu ailleurs. Vous avez vu ça, des chicanes d'église. Des chicanes sur des choses secondaires ou même sur des choses principales, mais mal gérées. Vous avez été déçu par des pasteurs, déçu par des diacres, déçu par des membres, des responsables de l'école du dimanche, déçu par des collègues dans des ministères. Et vous dites, je ne sais pas si je serais capable encore de faire confiance. Peut-être ce matin, ce qu'il vous faut, c'est de prier, Seigneur, Seigneur, tu peux-tu me guérir de mes blessures d'église? Peut-être que vous avez été dans une église où l'enseignement n'était pas juste. Vous avez été enseigné que tu pouvais peut-être perdre ton salut, puis tu as vécu sous la peur tout le temps de perdre ta foi en Jésus. Tu as senti qu'on voulait te contrôler à l'église, tes finances. Qu'on voulait contrôler ton implication. Qu'on te culpabilisait, qu'on te manipulait. Tu es déçu de l'église. Permettez-moi de faire cette prière avec vous ce matin. Père Céleste, j'ai besoin de guérison. L'expérience de l'Église, pour moi, n'a pas toujours fait finalement du bien à mon âme. J'ai des souvenirs qui font mal, des grandes déceptions. Et ça m'empêche de m'impliquer. J'ai peur, je n'arrive pas à faire confiance à personne. Puis moi-même, je ne me ferais pas confiance à moi-même parce que j'ai aussi moi-même été décevant. J'ai parlé dans le doute des gens, j'ai dit des choses, puis finalement, je le faisais pas, je me pointais pas, j'ai pas été fiable ou peu importe. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Il y a des gens aussi qui m'ont enseigné des fausses choses, j'ai de la misère à me sortir de la peur. Ça me met des culpabilités. Je me sens toujours culpabilisé de faire des choses par obligation. Et ces faux enseignements-là me rendent la vie chrétienne lourde. Peux-tu me guérir? Me soulager du poids de ces faux enseignements-là qu'on m'a mis sur les épaules, Seigneur? Et c'était pas de toi, je le sais, mais je lutte avec ça. Guéris-moi de ces mensonges qu'on m'a mis sur les épaules de religion, de culpabilité, de contrôle, de manipulation. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta guérison pour pardonner les autres. J'ai besoin de guérison pour que tu me soulages de ce poids. J'ai besoin de guérison pour me rendre libre parce que je me sens toute poignée. Guéris-moi, Seigneur, s'il vous plaît. Peut-être que tu luttes ce matin avec la crainte de prendre soin d'un disciple parce que tu te sens intimidé de t'engager à prendre soin de quelqu'un. Tu ne te sens pas à la hauteur. Et ça te fait peur. Seigneur, je veux te demander pardon de ne pas te faire confiance. C'est vrai que c'est intimidant, cet ordre, Seigneur, mais si je crois que tu as toute puissance et que tu es toujours là, je peux y arriver avec toi, Seigneur. Tu peux-tu augmenter ma foi? M'aider à comprendre c'est quoi à l'intérieur de moi, dans ma conscience qui m'empêche de prendre soin de quelqu'un avec ce que tu m'as donné, avec ce que quelqu'un m'a peut-être déjà donné. Ou peut-être j'ose pas donner, Seigneur, parce qu'on ne m'a pas donné à moi. Mais j'aimerais tellement ça avoir reçu. Peut-être tu peux m'aider, Seigneur, à donner à un autre qui est nouveau dans la foi, que je pourrais prendre soin avec ce que tu me donnes, Seigneur. Guéris-moi, fortifie ma foi, Seigneur, que je puisse avoir une juste perspective de la mission que tu me donnes, de ce que c'est l'Église, et de pouvoir avancer. Seigneur, est-ce que tu peux, dans cette nouvelle année, comme Église, nous aider à avancer? C'est vrai que je ne peux pas faire confiance à un autre humain, ça serait fou, parce que je suis décevant et que je vais décevoir et que l'autre va me décevoir et que je vais être déçu et j'ai peur. Mais Seigneur, par la foi, je veux faire confiance à l'autre, pas parce que l'autre est digne de confiance, mais parce que toi, tu mérites ma confiance. Et que toi, tu vas m'aider à pardonner. Toi, tu vas m'aider à relever les défis. Parce que c'est toi qui m'invite à la mission, qui m'invite à la vie d'église, à la vie de communauté. Corrige, Seigneur, mes pensées, mes appréhensions, mes mensonges, mes craintes. Guéris-moi, s'il vous plaît, qu'on puisse vivre en Église. Et si ce matin, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, j'aimerais t'inviter à prendre ce choix de croire en Jésus, de devenir un enfant de Dieu, de reconnaître que tu as besoin de Jésus et que tu es perdu sans lui et que seulement Dieu, par son Fils Jésus-Christ, est sauveur, peut me sauver de mes péchés, sauver de la condamnation éternelle devant un Dieu parfait, et que ça passe par Jésus qui pardonne mes péchés. Oh Seigneur, je veux croire en toi ce matin, te demander pardon. Prends-moi, s'il vous plaît, comme ton enfant, comme ton fils, comme ta fille. Et nous te prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.